Soyez les bienvenus sur Radio Vallée-Vézère. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Radio Vallée-Vézère, votre radio au cœur de la vallée.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Sarlat, votre spécialiste culture, CD, DVD, jeux vidéo et librairie, sur plus de 600 mètres carrés au cœur du Périgord noir. Retrouvez votre espace multimédia dans votre hypermarché Leclerc Sarlat, les deux gares. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Dordogne sur mariemorin.fr.
Radio Vallée-Vézère,
la radio des trois provinces,
Périgord noir,
Pays de Brive,
Auquercy,
sur 104.4
et 98.5.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut en écoute la télé, l'hebdo sur Radio Vallée-Vézère, où vous nous écoutez chaque lundi à 11h et 19h sur le 104.4 et 98.5. Pendant une heure, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Et ça tombe bien, tout de suite, voici le sommaire.
On est vraiment bien.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire, eh bien, de votre nouvelle émission hebdo inédite de Chut, on écoute la télé, nous allons avoir le plaisir de recevoir d'ici quelques instants Aurélie Pons, qui joue le rôle de Salomé dans la série Ici tout commence, et Ici tout commence vraiment bien, avec eh bien, pour une première semaine couronnée de succès d'audience et 3 700 000 téléspectateurs en moyenne, c'est excellent, bien évidemment. Et puis nous aurons le plaisir de recevoir Dorine Bourneton, qui est eh bien justement celle qui a écrit le livre et qui a inspiré eh bien le film de ce soir sur TF1, Au-dessus des nuages, elle sera notre invitée. Hélène de Fougerolles également sera en ligne avec nous pour nous parler eh bien, du lancement de la saison 3 de Balthazar. Ça sera jeudi soir sur TF1. Elle a quitté Koh-Lanta il y a une dizaine de jours. Jeudi, qui faisait partie de l'équipe de l'Ouest, eh bien, sera également notre invitée. Elle fera avec nous le bilan de son aventure. Un très beau documentaire demain soir sur France 2, De Gaulle, histoire d'un géant, réalisé par Jean-Pierre Côté. Il sera avec nous pour en parler. Et puis on va fêter en fin d'émission le grand retour de la série Ainsi Grand Soleil. Jean-François Mallet alias Moreyaz eh bien sera avec nous pour nous parler de son personnage bien évidemment et du retour de la série que vous attendez tous ce soir à 20h40 sur France 2. Et puis enfin Meurtre à Cayenne, c'est samedi sur France 3. Marc Barra le réalisateur et Anne Caillon seront avec nous pour en parler, vous avez compris. On a du pain sur la planche, on va passer une heure, on va pas s'ennuyer encore une fois. Allez tout de suite les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, tout de suite, donc, un petit bilan des audiences de la semaine dernière. Et on démarre, eh bien, par lundi. Il y avait De Gaulle sur France 2, L'éclat et le secret, qui ont dominé la soirée avec 4 703 000 téléspectateurs et 19% de part de marché. L'amour est dans le pré arrive à deuxième place avec ses 16% du public et 3 870 000 téléspectateurs. Il était une fois à Monaco sur TF1, arrive troisième avec 3 172 000 téléspectateurs. Et les têtes de l'emploi sur France 3 ne fait par recette seulement 1 559 000 téléspectateurs. Mardi, sans surprise, c'est le capitaine Marlowe qui domine la soirée avec 5 948 000 téléspectateurs et 23,7% de part de marché. Deuxième, c'est Good Doctor avec 3 359 000. La France a un incroyable talent, talonne juste derrière avec 14,1% du public et 3 308 000 téléspectateurs. La soirée spéciale USA fait un flop sur France 2, seulement 1 510 000 curieux. Et puis mercredi, il y avait 10% le final sur France 2 et qui a été suivi par 3 561 000 téléspectateurs et 15,4% de part de marché. Grey's Anatomy est juste derrière avec 2 971 000 téléspectateurs et 12,7% de part de marché. Le meilleur pâtissier s'en sort bien sur M6 avec ses 2 862 000 fidèles. Jeudi, c'est le final d'Alice Nevers qui remporte la soirée avec 5 185 000 téléspectateurs pour 23,6% de part de marché. Il y a les 7 mercenaires juste derrière qui fait la moitié seulement avec 2 621 000 téléspectateurs et 11,9% du public. 911 sur M6, 2 178 000 téléspectateurs. On passe eh bien vendredi. Et vendredi, c'est Koh-Lanta qui domine la soirée évidemment avec 5 608 000 téléspectateurs et 24,2% de part de marché. NCIS s'en sort bien avec 3 311 000 téléspectateurs et 15,7% de part de marché. La rediff des Petits Meurtres d'Agatha Christie, eh bien, fait la soirée sur France 2, fait le job avec 3 073 000 téléspectateurs et 12,1% du public. Seulement 2 013 000 téléspectateurs pour l'émission Boîte à secrets sur France 3 présentée par Faustin Bollard. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière. On va ajouter les audiences d'ici tout commence, la nouvelle série de TF1 qui a fait un carton plein pour son lancement avec quasiment 3 800 000 téléspectateurs sans les replays. Alors à mon avis, ça a dû bien dépasser tout au long de la semaine. L'audience s'est maintenue. C'est un pari gagné pour TF1. Et justement, eh bien, on va en parler d'ici quelques toutes petites secondes avec Aurélie Pons qui joue le rôle de Salomé qui nous rejoint tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé, eh bien cette semaine avec Aurélie Pons qui est notre invitée, qui joue le rôle de Salomé dans la série Ici tout commence, qui a démarré lundi dernier sur TF1 avec un énorme succès, hein, quasiment 4 millions de téléspectateurs. Et Aurélie donc est avec nous en ligne. Bonjour Aurélie.
Bonjour Alain, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous, je suis très heureux de t'avoir Aurélie. On a découvert évidemment le personnage de Salomé dans Demain nous appartient. On s'est très vite attaché évidemment à ce personnage que Maxime Delcourt a rencontré et ce dont par qui tout est arrivé évidemment, puisque maintenant, eh bien, si Maxime Delcourt est rendu à Saint-Laurent-des-Gouzes, c'est un peu à cause de Salomé.
Oui, bien sûr, c'est un peu à cause de Salomé. Bon, également aussi parce que Maxime est un passionné de cuisine, mais aussi, oui, par cette rencontre avec Salomé, c'est vrai.
Aurélie, comment vous êtes arrivée dans cette série ?
J'ai toujours fait beaucoup de casting, beaucoup d'auditions. Bon, j'ai fait du théâtre depuis petite.
Ouais.
Et moi, après, j'avais fait du mannequinat, donc rien à voir. Et après, quand je suis montée à Paris, bon, j'ai cherché des agents, etc. Et c'est là qu'a commencé les auditions, les castings, pendant pas mal d'années. Jusqu'au jour où une audition a fonctionné, celle-ci. Donc voilà, pour moi ici, tout commence un petit peu aussi.
Ben oui, c'est ça. Comment s'est passée la rencontre avec Clément ?
La rencontre avec Clément, super. Ben, il est adorable, donc on s'est tout de suite très bien entendu. Il m'a un petit peu briefé sur l'aventure, il m'a parlé de son expérience. Ouais, il est adorable, quoi. Il est généreux, il m'a tout de suite aidé, il m'a tout de suite conseillé. Et super, franchement.
Alors Aurélie, on t'a vu pendant un mois hein, quasiment dans Demain nous appartient avant d'arriver dans Ici tout commence. Quand tu as vu le décor à Saint-Laurent-des-Gouzes, quand tu as vu ce beau château de Calvière dans lequel vous alliez officier pendant des semaines, peut-être des années, je vous l'espère en tout cas. Comment t'as réagi à ta première visite ?
Franchement, j'étais bouleversée, quoi, parce que, déjà, ça me faisait un peu penser à Harry Potter, c'est pas, je me suis dit, un château, avec des élèves, enfin, waouh, quoi. Ce qui est fou, c'est que c'est tout, enfin, tout est réel, quoi. Il y a pas de, enfin, ouais, ça, c'est pas vraiment un décor, c'est un vrai château, c'est des vraies cuisines, voilà, le potager, ça, ouais, moi, franchement, le potager, ça m'a vraiment rappelé Harry Potter, je me suis dit, voilà, avec les plantes et tout, c'est hyper beau, c'est vraiment très beau.
Comment tu la définirais, toi, Salomé ?
Alors, Salomé, c'est une jeune fille sensible, je dirais tourmentée et romantique. Voilà, en trois mots.
On peut dire que son cœur est partagé quand même entre Maxime et Louis.
Exactement. Ouais.
Et ça n'a pas facilité les choses avec l'épisode de vendredi et ce fameux mariage, quand même.
Absolument, ça, c'est compliqué. C'est un peu compliqué tout ça. C'est un peu le cœur et la raison, quoi.
C'est ça. Est-ce que ça t'a donné des envies de cuisiner ? Est-ce que t'avais déjà des plats favoris, toi ? Des spécialités que tu cuisines et de réputation dans ta famille ? Tu es la meilleure là-dessus ?
Alors, ouais, j'ai toujours bien aimé cuisiner, franchement. Et en voyageant, j'ai pas mal voyagé. Donc, je me suis un petit peu inspirée. J'ai un petit peu inspirée des recettes d'autres cultures. C'est que ma famille adore qu'on cuisine des curry balinés, parce que j'ai vécu un peu à Bali. Donc, voilà. Je fais de très bons curry balinés sans me vanter. Et la cuisine, c'est vraiment cool. Enfin, ça réunit, c'est un beau partage. Et là, sur la série, en plus, on a eu la chance d'être un petit peu coaché et d'avoir un super chef étoilé qui est venu nous coacher pendant quelques jours pour nous apprendre. Donc, j'étais d'autant plus contente, quoi. Apprendre vraiment la technique, les gestes, comment vider un poisson, comment... Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une grande chance d'interpréter ce rôle, quoi.
Aurélie, tu disais que pour toi, ici, tout commence sur cette série. Tu arrives sur une série où directement, tu donnes la réplique à des gens comme Francis Huster, Catherine Marshall, Frédéric Diefenthal. Ça doit être génial pour une comédienne.
Ouais, c'est incroyable. J'ai beaucoup de chance. C'est vraiment un honneur. Ce qui est super, c'est que ça permet d'apprendre tout le temps et de grandir, quoi, parce que, en plus, c'est des gens qui sont très généreux, qui donnent énormément de leur expérience, qui partagent, qui conseillent. C'est vraiment un honneur, quoi.
Alors, on va suivre, hein, évidemment, toute cette semaine, cette nouvelle fracassante qu'on a appris puisque Salomé est enceinte. C'est un secret pour personne maintenant, je pense, on peut le dire.
Eh oui. Ouais, Salomé est enceinte.
Ça va être la surprise. Et là, maintenant, on va essayer de découvrir comment va se décortiquer, évidemment, toute cette intrigue et toute cette histoire autour de cette grossesse, ce mariage et puis la cuisine, puisque évidemment, la cuisine passe toujours au premier plan, hein, pour Salomé.
Oui, en effet, Salomé veut devenir une grande chef, donc elle est très sérieuse et très studieuse.
Une belle aventure en tout cas qui est bien bien suivie par beaucoup de téléspectateurs. On vous souhaite évidemment à tous là-bas à Saint-Laurent-des-Gouzes et bien une très belle continuité de tournage, puisque malgré le confinement, et bien voilà, vous avez pu continuer, vous pouvez continuer à tourner. Donc voilà, courage à vous tous, soyez prudents et puis on vous embrasse tous sur le tournage d'Ici tout commence.
Quand je suis revenu avec Myriel, elle était plus là.
Qu'est-ce que tu racontes?
Quelqu'un l'a trouvé, l'a embarqué, j'en sais rien.
Il n'y a pas de corps parce que quelqu'un l'a fait disparaître.
Antoine. Noémie était une fille dérangée.
Je suis rentrée à l'institut en pensant vivre un rêve. Tessie en a fait un cauchemar.
J'ai réfléchi à ta proposition, que tu pourrais être ma meuf test.
Elle est où cette meuf?
Et oui, elle espère un peu.
Tu veux qu'on enlève nos vêtements?
Je suis enceinte.
Mais c'est pas une bonne nouvelle.
Je t'ai pas tout dit.
Elle me trompe, la meuf. Je vais trouver le mec, je vais le détruire.
Ici tout commence. Votre nouvelle série quotidienne, du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.
Et vous pouvez voir ou revoir Maxime, Salomé, Elliot et les autres sur MyTF1.
Et on continue à passer en revue nos coups de cœur télé de la semaine. Dorine Bourneton, Jean-Pierre Côté, Hélène de Fougerolles, Jean-François Mallet, tout ça, ça arrive dans un instant. Dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
Come back.
écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé ce soir pour le très beau téléfilm Au-dessus des nuages qui sera diffusé à partir de 21h10 sur TF1. L'histoire de Dorine Bonneton qui va être donc à la télévision. L'histoire de Dorine, une vraie leçon de vie que vous allez pouvoir partager ce soir avec ce téléfilm. Et moi, j'avais envie de partager avant la diffusion un petit moment justement avec Dorine Bonneton qui est notre invitée. Bonjour Dorine.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Quand les téléspectateurs vont voir cette histoire ce soir, incroyable histoire de cette jeune fille qui perd l'usage de ses jambes, qui devient paraplégique à la suite d'un accident d'avion alors qu'elle rêve que d'une chose, c'est d'être pilote et qu'elle va se battre pour arriver à ses fins malgré son handicap. C'est la véritable histoire de votre vie, hein, Dorine, hein, qu'on va voir sur l'écran ce soir.
Oui, c'est inspiré de mon histoire. Bien sûr, elle a été réécrite pour les besoins du cinéma, on va dire, puisqu'il faut résumer 30 ans d'une vie en 90 minutes.
Et oui.
Mais l'essentiel est dans le téléfilm. L'essentiel, ça veut dire l'émotion, cet amour du vol, ce sentiment de liberté quand on arrive à retrouver ses ailes malgré un accident, malgré le fauteuil roulant. Et puis la joie de voler, de partager aussi cette passion avec mon meilleur ami qui est présent dans le téléfilm, hein, dont la présence est très importante dans le téléfilm,
ouais.
Et qui est dans la vraie vie, qui s'appelle Guillaume Ferral.
Et qui est incarné par Lannick Gautry.
Exactement, qui est encore meilleur que le vrai.
Qu'est-ce que ça fait, Dorine, de voir sa vie défiler comme ça? Parce que je suppose que vous avez pu voir, vous aussi, le film avant la diffusion. Ça fait quoi?
Ça fait pleurer.
J'imagine.
Évidemment, c'est extrêmement émouvant parce que on m'a souvent posé la question, mais c'est pourquoi c'est pas toi qui joues ton propre rôle? Mais j'aurais été incapable de retranscrire, de faire revivre les émotions que j'ai pu ressentir à un moment donné de ma vie. Et que Alice Taglioni, qui est l'actrice, parvient à nous restituer, à nous refaire vivre, et même de manière sublimée, parce que dans ce téléfilm, elle est absolument magnifique, mais absolument aussi authentique, vraie. Moi, j'ai assisté au tournage, j'étais là tous les jours, et je peux vous dire qu'après chaque séquence, je pleurais. Il y a une autre performance aussi, c'est celle de Fanny Contenson qui joue ma mère.
Oui,
parce que ma mère, elle est exactement comme dans le téléfilm. Et quand elle va se voir à l'écran, lundi soir, elle n'a pas vu encore. Oh là là, je crois qu'elle va beaucoup pleurer, elle aussi.
Et la jeune fille qui vous incarne aussi à 17 ans est très, très émouvante.
Hein. Oui, c'est vraiment une actrice dont on va en entendre parler d'ici quelques années, parce que je l'ai trouvée vraiment, vraiment époustouflante. Elle était, mais chaque prise, elle était juste, elle était merveilleuse.
Comment ça s'est passé à la base? Qui est venu vous voir? Dans quel sens ça s'est fait quand on vous a demandé d'adapter votre livre en film?
Eh ben, en fait, moi, j'ai écrit ce livre parce que je voulais transmettre un message à ma fille, lui dire pourquoi je vole, pourquoi j'aime autant, j'ai besoin de piloter un avion, qu'est-ce que je vais trouver à travers le pilotage? Parce que ça correspond au moment où j'ai commencé de la voltige aérienne, où quand on fait de la voltige, les risques sont maximum, on prend des risques. Et du coup, je me disais, il faut que j'explique à Charline, parce que s'il m'arrive quoi que ce soit, qu'elle comprenne pourquoi j'y vais, pourquoi j'y suis allée malgré les risques. Une productrice, une femme, est venue à ma rencontre et elle m'a dit qu'elle voulait justement adapter un combat de femmes sur grand écran. Et on a beaucoup échangé, beaucoup discuté. Et si vous voulez, ça a été comme un coup de foudre amical. On s'est comprise. Elle s'est projetée. Elle a dit, mais moi, je sais ce qu'on peut raconter. J'ai envie de faire changer le regard que peuvent avoir les gens sur le handicap. Et on va y arriver ensemble. Ça peut être prendre du temps. Ça peut être très long. Effectivement, ça a pris 5 ans. C'est un projet qui a pris 5 ans avant d'aboutir et avant d'aboutir au résultat que vous allez voir ce soir.
Moi, ce que j'aime, en ayant vu le film, c'est vraiment que la phrase dit « quand on veut, on peut » n'a jamais aussi bien fonctionné.
Il faut toujours croire en ses rêves.
Exactement.
Oui. Et moi, j'ai toujours cru en mes rêves parce que, si vous voulez, quand j'ai perdu l'usage de mes jambes, j'avais l'impression d'avoir tout perdu finalement, puisque j'avais perdu ma liberté, j'avais perdu l'essentiel à 16 ans. C'est l'essentiel hein, oui. Que de perdre sa liberté. C'est comme si vous vous retrouvez en prison, dans une cage, vous êtes posé sur un fauteuil et vous savez que vous ne vous en relèverez jamais.
Et on le sent bien d'ailleurs hein, dans l'interprétation de Margot, hein, de Margot Châtelier.
Oui. Et du coup, je me suis évadée à travers justement mes rêves, qui sont devenus mes projets qui me tenaient à cœur, puisque c'était des rêves. J'en faisais des rêves la nuit. Moi, la nuit, je rêvais que j'étais libre, que je volais, que j'avais même pas besoin d'avion pour voler, en fait. Ces rêves, j'ai tout fait pour pouvoir les concrétiser, parce que, de toute façon, c'était devenu ma vie. Il me restait plus que ça, en fait. Plus que cette forme de liberté que de pouvoir m'évader.
Pour survivre.
Par l'esprit. Souvent, quand j'écoute la chanson de Johnny Hallyday, Diego, libre dans sa tête. Mais c'est tout à fait moi, en fait. Je suis dans ma tête, je vole, je suis libre. Et cette liberté-là, elle me donne la force de passer à l'action. Et elle m'a donné la force, en tout cas, de devenir pilote de voltige.
Et ce soir, vous allez nous emmener, Dorine, au-dessus des nuages. Un rendez-vous à ne pas manquer, un très beau téléfilm qu'il ne faut pas rater. Et c'est à 21h10 sur TF1.
Oui.
Merci beaucoup, Dorine, d'avoir été avec nous.
Et je vous dis...
Pour mon premier vol, l'avion s'est crashé et le pilote est mort.
Attention ! Qu'est-ce que tu veux faire ?
Pilote de ligne.
Ça risque d'être compliqué.
Je vais être la première pilote handicapée à faire de la voltige. Je suis un cas particulier.
Non, pas ici, vous n'êtes pas un cas particulier ici.
Je peux voler, je peux devenir pilote.
Ben, c'est n'importe quoi.
Peut-être, ouais. C'est ma vie.
Tu peux pas te comporter comme une fille normale !
C'était fabuleux. Je veux plus jamais que ça s'arrête.
Si tu veux un conseil, fais ce que tu sais faire et tu vas gagner. Il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Bon vol.
Inédit, au-dessus des nuages, lundi à 21h05 sur TF1.
Allez, coup de cœur télé demain sur France 2 avec le docu-fiction De Gaulle, histoire d'un géant avec Jean-Pierre Côté, son réalisateur, qui est justement avec nous pour en parler. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler de ce docu-fiction. Moi, j'ai eu la chance de le voir avant tout le monde. Un vrai coup de cœur, on apprend plein de choses, non seulement sur l'homme qui était De Gaulle, ce destin en même temps hors du commun, cette personnalité que personne ne peut oublier. Et Jean-Pierre, voilà, ce docu-fiction en tout cas retrace parfaitement le parcours de cet homme.
Hein. Oui, c'était un pari qui a fait douter bien des gens. C'était l'idée de raconter De Gaulle, de sa naissance à sa mort, une biographie complète, ce qui n'avait jamais été fait. Il y a de nombreux films sur le général, qui fascinent les réalisateurs, les historiens et le public, mais aucun ne parlait de sa naissance à Lille, et de sa mort à Colombelle et de ses églises, et de l'incroyable histoire de sa vie. Et on s'est lancé là-dedans avec un, à mes yeux, des plus grands biographes du général, qui est Eric Roussel, qui est publié chez Gallimard, avec Yves de Gaulle, qui nous a accompagnés aussi et qui nous a donné d'ailleurs le courage et l'audace de faire parler le général à la première personne. Et enfin, Patrice Duhamel, qui nous a porté son regard de journaliste sur certains événements. C'est 2 ans et demi de travail et au bout du bout, j'ai le sentiment que on comprend mieux le général et on comprend ce qu'il a motivé tout au fil de sa vie à partir du moment où on comprend son milieu familial et on suit l'évolution de sa carrière. Je crois que la biographie est un élément essentiel.
On en apprend aussi beaucoup sur la discrète Yvonne qui a pourtant joué des rôles essentiels par moment, on le voit dans le documentaire, dans les décisions qu'a pris le général de Gaulle.
Oui, vous avez raison, je suis sensible à ce que vous l'ayez perçu. On a tenu à rendre sa place à Yvonne de Gaulle. Ça a été non seulement, bien sûr, la compagne de chaque instant de la résistance à Londres jusqu'aux les pires heures de la guerre d'Algérie, mais c'est aussi un personnage sur le plan moral absolument emblématique. Elle a géré l'Élysée, d'ailleurs, d'une façon exemplaire, et elle a géré aussi sa famille avec toute la douceur que nécessitait la présence d'une enfant trisomique, ce qui est un des aspects de la vie de De Gaulle qui restait souvent très caché.
Ouais, effectivement. Il y a beaucoup d'images d'archives aussi, ça a dû être un travail incroyable pour les archivistes qui ont travaillé aussi sur ce film. Il y a des images qui ont été difficiles à dénicher.
Oui, il y a deux types d'images. Il y a des images d'archives très connus, qui sont incontournables. Quand De Gaulle annonce lors d'une conférence de presse que ce n'est pas à 67 ans qu'il va faire une carrière de dictateur, c'est le genre de déclaration qui a parcouru la France, d'autres ont parcouru le monde. Ces déclarations contre les Américains, notamment au Cambodge. Il y a d'autres images qui étaient très accessibles à l'INA, et j'étais très étonné que nos prédécesseurs ne les aient pas plus exploitées, notamment quand le général, dans l'interview qu'il donne avant les élections au journaliste Michel Droit, raconte longuement tous les moments d'hésitation, tous les moments où il a imaginé de quitter le pouvoir, quitter l'histoire, comme il le dit, parce que c'était trop dur, parce qu'il doutait. Je trouve que ces images-là, je le redis, qui étaient très accessibles, n'ont pas été exploitées. Après, pour répondre directement à votre question, on a eu, grâce à Yves de Gaulle, longuement accès à la boisserie et accès à des images que d'autres n'avaient pas pu avoir.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir Bernard Fassi pour illustrer De Gaulle, pour l'incarner, tout simplement?
Il avait déjà été un formidable De Gaulle dans le film de Bernard Stora. Bernard Fassi s'est encore physiquement rapproché du général.
Jean-Pierre, ce documentaire, évidemment, retrace toute la vie du général De Gaulle. Moi, ce qui me fascine encore, parce qu'on va voir aussi la mini-série, hein, le final ce soir sur oui. France 2 qui a cartonné la semaine dernière. Comment vous expliquez encore cette fascination pour ce personnage?
Franchement, je ne sais pas si on a besoin d'expliquer. Eu égard à la période que nous traversons, c'est un phare. Et on se rend compte que l'histoire de De Gaulle, c'est l'histoire de la France. Et aujourd'hui, il est incroyablement d'actualité.
Oui.
J'étais sidéré dans l'écriture du scénario de retrouver des attitudes de De Gaulle. C'était un visionnaire, il anticipait l'histoire. Quand il refusait la rentrée des Anglais dans le marché commun en annonçant que ça allait être le porte-avions des Américains, il anticipait. Quand il disait que les Américains devraient quitter l'Indochine, donc le Vietnam pour eux, il anticipait là aussi sur l'histoire. La 5e Constitution a été un monument qui a forgé toute notre vie. Il est incontournable. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point tous les hommes politiques, tous, sans exception, revendiquent l'héritage.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Moi, j'espère en tout cas que ce film pourra être vu et projeté aussi, hein, dans les écoles. Je pense que c'est aussi une mission de l'éducation nationale de pouvoir montrer un docu-fiction comme vous avez fait, qui retrace cette vie. De Gaulle, histoire d'un géant. On ne le rate pas. C'est demain soir. C'est à 21h10, juste après Un si grand soleil sur France 2. Et Jean-Pierre, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.
Merci beaucoup Jean-Pierre, et tout de suite on se quitte avec un extrait.
Événement, mardi soir.
Française, Français, le général de Gaulle est mort.
Il y a 50 ans, disparaissait celui que les Français considèrent toujours comme l'homme providentiel. Un homme dont le destin avait rencontré celui de la France et des Français. Du soldat de la Première Guerre au résistant de 1940, il fut aussi l'homme de la 5e République, de la guerre d'Algérie, un homme qui a forgé l'histoire.
De Gaulle avait deux armes, l'épée et la plume.
Charles de Gaulle, histoire d'un géant, un film événement raconté par Denis Podalydès, mardi soir à 21h05 sur France 2.
Allez, coup de cœur télé consacré cette semaine au grand retour de Balthazar saison 3. Ça sera jeudi soir à 21h10 sur TF1. Et nous avons justement Hélène de Fougerolles qui joue le rôle d'Hélène dans cette série qui est avec nous en ligne. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous avoir Hélène. On s'était rencontré au Festival de la fiction télé de La Rochelle pour ce très beau rôle dans Le Secret d'Élise. Et depuis, c'est Balthazar. Ça fait 3 ans. Le succès ne se dément pas. Avec une première saison couronnée de succès, c'est maintenant une 3e saison qui débarque déjà jeudi. Hein.
Exactement. Je suis très très fière de cette série. Je suis contente d'en parler.
Alors justement, Hélène, il s'est passé beaucoup de choses en fin de saison 2. On a laissé les téléspectateurs pantois, excusez-moi du terme, mais vraiment, on les a laissés avec un suspense. Et puis vraiment, cette mort de Lise, où voilà, et on va retrouver évidemment Balthazar et toute son équipe dans cette saison 3. Mais Balthazar a carrément décidé de changer de vie. Voilà, carrément. Il a pris un tournant.
Exactement. Il a dû très mal vivre la mort de son meilleur ami Marguerite. Et puis, ça allait quand même très très mal pour lui dans les derniers épisodes. Je ne vais pas tout divulguer si certains veulent encore découvrir la saison 2 avant de découvrir la saison 3. Mais voilà, il avait disparu complètement. Donc ça commence avec le premier épisode où je vais finir par enfin, on va le voir en train d'essayer de passer à autre chose, mais malheureusement, son métier le rattrape.
Et oui. Et puis Hélène aussi va le rattraper. Ils sont indissociables, ces deux-là.
Moi, je vais pas le louper. C'est clair que les retrouvailles vont être un petit peu explosives.
Oui, c'est des retrouvailles animées. Parlons de Thomas Sisley, justement, tous les deux. Comment ça s'est passé entre vous, la rencontre au tout début de cette série? Quand vous êtes partis, justement, sur cette série, est-ce que vous pensiez, justement, aller aussi loin, aller sur une saison 3, par exemple, là?
Eh bien, il se trouve que la série a été faite pour Thomas, donc elle a été écrite pour lui, et moi j'ai passé des essais pour le rôle de Dylan Bach. Et donc voilà, j'ai eu la grande chance de pouvoir être à ses côtés. Ce qui est assez amusant, je trouve, c'est que dans la série et dans la réalité, on est assez différents. Alors j'ai dit une fois qu'on était chien et chat, c'est peut-être pas à ce point-là, mais on n'a pas beaucoup de choses en commun. Lui, il aime bien les cascades, il aime bien l'action, moi je suis assez dans l'émotion et la vulnérabilité. Mais à côté de ça, je crois qu'on aime quand même travailler ensemble parce qu'on est très complémentaires, on est très différents et on a beaucoup de respect mutuel pour le travail qu'on fait, ou de ce qu'on apporte en tout cas chacun à cette série.
Exactement. Et alors, sans spoiler évidemment, hein, on va pas raconter tout, mais vous avez le pied marin ou pas, Hélène?
J'ai le pied marin. Oui, moi je suis bretonne.
Donc le mal de mer, il était un petit peu faussé.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a beaucoup de gens qui ont vomi en plus dans ce premier épisode.
Dans cette séquence.
Mais les pauvres de l'équipe, ils sortaient tous les uns après les autres. Ils étaient dans des états. Et moi, je suis tranquille. Je suis absolument pas malade en bateau. J'ai cette grande chance. Je suis montée sur un bateau à l'âge de 6 mois, je crois. Donc,
enfin, c'est des beaux paysages bretons qu'on va découvrir en tout cas dans ce premier épisode, en tout cas déjà.
Oui, ça a été tourné au large de Belle-Île.
Quel meilleur souvenir de tournage de cette saison 3 pour le coup, Hélène? Et est-ce qu'il y a un fil rouge qui va nous faire tenir en haleine un petit peu tout le long, malgré des enquêtes évidemment à chaque fois, à chaque épisode bouclé?
Alors, le fil rouge, de ce que j'aime moi dans cette série, c'est bien sûr qu'il y a des enquêtes, mais j'aime beaucoup aussi la relation entre Balthazar et Hélène Bach. Il y a aussi cette mauvaise foi qui va commencer à me caractériser parce que mes sentiments commencent à me déborder. Enfin, les sentiments de mon personnage commencent à la déborder et elle n'arrive même plus à faire semblant. Elle se retrouve dans des quiproquos, dans des non-dits. D'ailleurs, dans le premier épisode, cette scène de retrouvailles où je l'insulte en lui disant qu'on part pas comme ça, ça ne se fait pas et on peut au moins téléphoner et donner des nouvelles. On voit très bien que c'est une femme amoureuse qui engueule l'homme qu'elle aime, plutôt qu'une capitaine de police.
Plutôt qu'une collègue, oui, ça c'est clair.
Voilà, c'est ça. Donc ce que j'aime beaucoup, moi, dans toute cette saison, c'est des choses qui sont parfois, qui essaient d'être maîtrisées, mais qui ne le sont jamais. Et on voit la femme amoureuse qui déborde de tous les côtés. Moi, je parle de mon personnage et de mon point de vue. Ensuite, il y a bien sûr des scènes que vous allez découvrir où il y a des rapprochements. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent avec impatience. Il y en a une absolument magnifique où on est dans une chambre froide. C'est dans le 2e épisode, je crois.
Ah, qu'on va découvrir jeudi, du coup.
Dans un casino. Oui, et là, franchement, ne loupez pas ça. Je pense que c'était une des plus belles scènes d'amour que j'ai eu à jouer. J'ai adoré cette scène.
Carrément. Est-ce qu'il y a d'autres projets, Hélène, à part Balthazar? Est-ce que vous avez eu le temps, même avec ce confinement et tout ce qui nous arrive cette année, est-ce que vous avez eu le temps de tourner d'autres choses?
Alors, il se trouve que j'ai été confinée comme vous tous, mais dès que le déconfinement s'est fait, j'ai tourné tout de suite tous les derniers épisodes de Balthazar. Donc, on a eu 8 épisodes en tout. Et j'ai aussi, au milieu de ça, réussi à tourner un 2e épisode de Mention particulière.
Ah oui.
Avec Bruno Salomon.
Ouais, et Marie Dalzotto.
Et Marie Dalzotto qui joue notre fille, qui est donc la trisomie 21. Et puis, on a une autre fille qui s'appelle Mara Schmidt, qui est trop mignonne. Et voilà, donc on fait une famille autour de cette jeune femme, parce qu'elle devient maintenant une jeune femme.
Qui veut rentrer dans la vie. C'est Bienvenue dans l'âge adulte, hein, je crois, cette suite. Hein.
Exactement, ça s'appelle Bienvenue dans l'âge adulte. On l'avait présenté au Festival de La Rochelle, d'ailleurs. On a eu beaucoup de succès. Et malheureusement, on a attendu 3 ans, mais heureusement, ça a fini par se faire pour faire un 2e épisode de cette magnifique saga. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Ah oui, donc, il était temps. On attendait avec impatience la suite, hein, franchement.
Ouais, moi aussi, j'attendais avec impatience. Et c'est pour TF1 aussi.
Eh ben oui, mention particulière, ça sera donc bientôt. On s'en reparlera, Hélène. Je vous recontacterai,
avec
puis on refera évidemment un petit focus sur cette fiction qu'on aime beaucoup aussi. On avait rencontré Marie Dalzotto qui est extraordinaire. Voilà, une jeune fille pleine de vie. Voilà.
Exactement.
En attendant Balthazar, c'est jeudi, 21h10, sur TF1. Là aussi, on va découvrir donc pendant 4 semaines, eh bien 2 épisodes chaque jeudi, qu'on va dévorer bien évidemment avec Thomas Sisley, comme les vins, et toute la bande bien évidemment autour d'Hélène Bach.
Exactement, merci beaucoup pour votre intérêt et ne loupez pas, la 3e saison est vraiment magistrale.
Eh bien voilà, on va la découvrir jeudi, Balthazar, saison 3, voici tout de suite la bande-annonce. À bientôt Hélène, merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Il est où ce dossier, Eddie?
Qu'est-ce que j'en sache? Pas moi qui m'occupe des dossiers.
Ah, pourquoi tu me dis, il est où ce dossier?
Écoute, je l'avais déposé là.
Bon, bah, donc voilà, donc c'est toi qui l'avais déposé. Donc c'est toi qui t'en occupais. Pourquoi tu me demandes où il est ce dossier? J'en sais rien là, pourquoi tu t'inventes une vie comme ça?
Moi, je m'invente une vie? Ouais. Non, mais attends, tu t'es vu ce matin? Ouh, j'ai glissé dans la rue. T'as glissé sur quoi? Une peau de banane?
Mais quoi? Mais de quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas porter plainte parce que j'avais 6 minutes de retard? Bah, vas-y, tu sais quoi, la police est là, profite!
Bon, excusez-moi, je vais pas vous déranger.
Mais tu prends trop pour une bosse là depuis que Balthazar est parti. De mépriser les gens là, de regarder tout le monde de haut, tu te pavanes. Calme-toi. Okay.
Bon, étiquette, qu'on arrête là ou quoi?
Et toi, depuis qu'il est parti, t'as 5 ans d'âge mental. Ah non, pardon, t'étais déjà comme ça avant.
Oh!
Merci. Bon, on peut l'avoir maintenant, ce rapport d'autopsie, ou non?
Ouais, désolé, c'est juste qu'avec Balthazar absent depuis 6 mois, c'est le bordel.
Toujours pas de nouvelles, toujours.
Ouais,
c'est Marguerite, il s'en remet pas. Ouais, tellement malheureux, là.
Allez, coup de cœur télé consacré à Koh-Lanta, évidemment, qui continue hein, chaque vendredi soir sur TF1. Et s'il y a une candidate qu'on a suivie, eh bien, dès le début, c'est le parcours de Jody qui était dans l'équipe de l'Ouest et qui a été éliminée il y a une petite dizaine de jours. Et on va revenir avec Jody sur son aventure, notre ostréicultrice de Charente-Maritime, de notre belle région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Jody.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors je disais, on va revenir sur ce parcours évidemment. Koh-Lanta, déjà pour ceux qui n'étaient pas avec nous hein, pour notre première émission du mois d'août, vous étiez déjà notre invité. On va revenir sur les raisons qui vous ont poussé déjà à participer à cette émission.
Alors les raisons pour lesquelles j'ai participé à Koh-Lanta, c'était vraiment des raisons personnelles. Voilà, j'avais envie de partir à l'aventure, de découvrir cette grande expérience humaine qui est Koh-Lanta. De, on va dire, jouer vraiment au petit aventurier. Et ça a été une expérience vraiment formidable et je regrette vraiment pas d'y avoir participé.
Alors maintenant, entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit vraiment, parce que maintenant, on peut tout dire, maintenant que vous avez été éliminé, comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué particulièrement? De quoi vous avez souffert le plus en manque? Est-ce que c'est la nourriture, le manque des proches? Comment vous avez vécu tout ça?
Alors, on voit les images à la télé, mais en fait, on n'a pas de ressenti, mais il y a vraiment, mais rien du tout. Et on cherche de la nourriture en permanence. On est très fatigué parce que du coup, le corps demande de l'énergie sur les épreuves où on a faim tout le temps.
Ça devient une obsession, honnêtement.
Ça a été, mais une obsession comme j'ai jamais eu. D'habitude, quand je suis en France, j'aime bien aller faire du shopping, aller m'acheter des chaussures, des trucs comme ça. Mais là, la nourriture, c'est on en rêvait même la nuit, quoi. Ça devient notre principale obsession. On a l'impression qu'en fait, on arrive à survivre que par le fait qu'on pense à la nourriture, quoi. Après, même si on est dans l'inconfort, on s'adapte quand même assez rapidement, malgré le froid, les intempéries, tout ça. Mais le manque de nourriture, je crois que c'est fou, quoi. Ça rend dingue, en fait.
Bon, Jody, est-ce que Koh-Lanta a permis de créer des amitiés ou des inimitiés aussi, on peut dire? Parce que voilà, le parcours des fois avec les autres concurrents n'a pas toujours été facile, on a pu le voir. Mais voilà, est-ce que ça a pu permettre de créer des contacts, des liens plus forts avec certains, peut-être que d'autres?
Alors moi, forcément, j'ai des liens avec donc l'équipe de l'Ouest, hein, parce qu'on a commencé l'aventure ensemble. Après, je suis très très proche de Diane, donc qui a Pau.
Ouais.
J'ai l'équipe de l'Ouest et puis au fur et à mesure du jeu, alors je peux pas dire que n'aime pas les gens, je pense qu'il y a plus ou moins d'affinité qui se crée et voilà, et moi j'ai créé ensuite par la suite avec l'équipe jaune des liens avec Alexandra qui est de l'Est hein. Et voilà, mais même après le jeu en fait, voilà, quand on revient dans la vie réelle, on est tellement tous contents de se revoir en fait, on a partagé tous la même chose et en fait, on en reparle encore ensemble et on se remémore des souvenirs ou même des réactions qu'on a eues, que ce soit positives ou négatives. Mais du coup, maintenant, aujourd'hui, on en rigole et justement, ça fait du bien.
Alors, l'aventure n'est pas tout à fait finie parce que vous ferez partie du vote final, jeudi pour le coup aussi, hein, qu'on verra plus tard.
Oui. Je ne suis plus dans le jeu, mais je suis toujours...
Dans l'ombre.
Toujours avec eux, ouais.
Bon, est-ce qu'il y a des regrets ou est-ce que vous referiez exactement pareil dans votre parcours?
Moi, j'ai aucun regret. Voilà, je pense que je suis restée entière. Quand j'avais quelque chose à dire ou taper du poing sur la table, on va dire, je le faisais. Non, j'ai pas de regrets. J'ai vécu mon aventure, dans ma tête. Enfin, c'est gravé à jamais. C'est voilà, j'ai créé des super liens. J'ai vécu une super expérience malgré que ça soit vraiment très dur. Mais en fait, on en retient vraiment que les bons souvenirs. C'est ça qui est génial.
Alors, je peux pas évidemment ne pas évoquer Bertrand parce que voilà, on pense à sa famille bien évidemment et puis à la rencontre que vous avez pu faire avec lui dans l'émission. Quel souvenir vous gardez de Bertrand pour le coup?
Alors, le souvenir que je garde de Bertrand, c'est quelqu'un de très souriant, de très social. Moi, pour ce que j'ai vécu avec lui, donc pas dans le jeu, mais donc à la villa après, voilà, on parlait beaucoup. C'est quelqu'un qui aimait faire rire, qui aimait plaisanter, qui racontait des blagues. Enfin, voilà. J'ai passé de très, très bons moments avec lui à la villa et je suis très contente de l'avoir connu à ce moment-là.
Et on pense bien sûr, voilà, encore une fois, à lui, à sa famille. Je sais que cette saison de Koh-Lanta lui est particulièrement dédiée et c'est mérité. Effectivement, je pense que vous avez tous gardé un bon souvenir d'un bon vivant. Voilà, je crois qu'on peut dire ça comme oui. ça. Les suites oui. de Koh-Lanta, jeudi. Est-ce que si un jour, maintenant, on vous reproposait de faire un choc des héros, de refaire une édition, on va dire All-Star, est-ce que vous seriez prêt à y retourner? Ou est-ce que c'est un peu tôt, là, quand même, pour se dire ça?
Je pense que c'est un peu tôt de dire que j'y retournerai, mais à réfléchir, pourquoi pas.
Ah, la porte n'est pas complètement fermée, donc. Alors, on sait que la prochaine édition aura lieu en France, enfin, du côté de la Polynésie française. Mais vous, d'abord, quel souvenir vous gardez des paysages que vous avez découverts là-bas, sur vos quatre terres?
Alors, moi, c'est la première fois que je partais déjà aussi loin, et puis en plus dans les îles. Mais juste magnifique.
Ah, vous avez déjà fait l'île de Léron, quand même.
Oui, non, mais voilà, mais ça n'a rien à voir.
Ah oui, j'imagine.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit, quoi. Là, il y a des palmiers, il y a des cocotiers. C'était un cadre, mais totalement fabuleux. Enfin, je me rappelle des couchers de soleil qu'on a vus le soir qui n'ont rien à voir avec les couchers de soleil qu'on a ici. Ou ne serait-ce que les nuits étoilées où on a vu des millions et des millions et des millions d'étoiles dans le ciel. Enfin, c'était juste superbe et franchement, j'en garde un très très bon souvenir et j'espère que, à l'occasion, bien plus tard, j'espère que j'aurai l'occasion de retourner au moins une fois là-bas.
Eh bien, j'espère aussi, en tout cas. Merci, Jody, d'avoir été avec nous, d'avoir évoqué ce parcours sans faute dans Koh-Lanta, voilà. Et puis, on verra maintenant le final et qui remportera cette édition. Merci beaucoup et puis à très très bientôt, Jody. Merci.
Ben, merci à vous. À bientôt.
Au revoir.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
J'ai remarqué que t'étais chelou. T'étais où depuis tout à l'heure? Me fais pas les yeux doux. J'suis ta meuf ou ta soeur. Tu peux pas me quitter. J'suis désolée, coco. Et la meuf que tu fréquentes, figure-toi que je la coco. Tu veux me quitter, c'est mort. Je veux plus tes efforts, d'ailleurs.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé cette semaine consacrée au téléfilm Meurtre à Cayenne qui sera diffusé eh bien sur France 3. Et on commence bien puisqu'on a le réalisateur avec nous, Marc Barra. Bonjour Marc.
Bonjour monsieur, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Et puis on a celle qui vous enchante tous les soirs sur TF1 dans Demain nous appartient. C'est Anne Caillon qui est avec nous. Bonjour ma chère Anne.
Bonjour, je ne sais pas si je vous enchante parce que je pleure beaucoup, mais bon.
Oui, tu as pleuré beaucoup effectivement. Mais bon là, écoute, tu as quitté cette direction la Guyane pour non seulement un beau voyage et puis un joli rôle et un joli téléfilm. Tout tourné en décor naturel. Ça aussi, ça change beaucoup de choses de pouvoir s'évader un peu du rôle de Flore.
Oui, c'est très agréable. C'est pour revenir avec encore plus de plaisir, mais c'est vrai que c'est des respirations essentielles. Et puis alors là, c'était une sacrée respiration pour le coup. C'était totalement inattendu, vraiment. Je n'avais aucune idée de ce qu'était ce territoire. C'est extraordinaire en fait. C'était très émouvant comme tournage et un travail en équipe en plus qui était formidable. C'était une expérience fantastique, vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir.
Marc, comment t'es arrivé sur cette aventure de Meurtre à Cayenne en tant que réalisateur choisi par France Zobda qui a produit le film?
Ben moi donc France Zobda, je la connais, Jean-Loup Monteux, depuis plus de 25 ans. J'avais rencontré Jean-Loup Monteux sur un film en Guyane, et j'étais assistant mise en scène. Et voilà, ils ont toujours suivi mon parcours, ils ont vu que j'avais fait un long métrage hors paillard en Guyane, donc quand ils ont proposé ce téléfilm à la chaîne Meurtre à Cayenne, ils ont proposé mon nom comme réalisateur du territoire, donc avec un regard particulier, un regard singulier. Et la chaîne a dit, ben oui, pourquoi pas, on vous fait confiance. Et puis, ils connaissaient mon travail. Donc voilà, ce sont des gens que je connaissais déjà depuis mal de temps, plus de 20 ans, quoi, François Jean-Loup, mon Dieu.
Alors, ce qui est bien dans ces meurtres, c'est évidemment, on part d'un meurtre, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir explorer, évidemment, les beautés d'un paysage, des légendes locales aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de départ, Marc, de ce meurtre à Cayenne?
L'histoire de départ, c'est le biologiste qui a monté une boîte de produits pharmaceutiques faits à partir de plantes, qui a retrouvé mort. Et donc, l'enquête va nous amener un peu à travers tous les complices qu'on peut rencontrer, aussi bien de sa femme que d'autres personnes. Et on aborde, comme ça se passe pendant le carnaval, on aborde la question du la légende du Toulouse Diables. C'est une légende où les femmes se déguisent la tête aux pieds et les hommes qui sont un peu volages et qui respectent pas la tradition, que tout se passe au dancing reste au dancing. Les hommes qui veulent aller plus loin, ben parfois ils sont entraînés dans les ténèbres avec ce Toulouse qui se transforme en diable avec des sabots à la place des pieds. Donc ça, c'est une première légende, une légende créole. Et puis on a aussi une légende amérindienne dans le film. Sans trop dévoiler, on a une légende amérindienne aussi qui conclut un peu le film. Donc voilà, donc c'était un chassé croisé entre deux pans de la culture guyanaise, une culture créole, une culture amérindienne, quoi. Voilà.
Le tournage, est-ce que des fois la Guyane, sa météo joue des tours sur un tournage? Est-ce que c'est parfois compliqué de tourner dans des terres tropicales comme ça?
Non, on a tourné au début de la saison sèche, donc ça va, on est passé un peu à travers des gouttes, enfin après les gouttes. Il y a eu quelques jours, on a eu peut-être 2 heures de pluie, mais on était en intérieur, donc on a réussi à jongler. Voilà, en Guyane, il y a des périodes où il faut pas tourner, on peut pas tourner, c'est mai-juin en général avec beaucoup de pluie, mais sinon tout le reste du temps, voilà, vous avez du beau temps, des éclaircies, vous avez jamais 2 jours de pluie en continu. Et puis là, on a vraiment tourné à Cayenne sur la côte et surtout le littoral, on n'est pas allé en forêt comme les autres films. Je tenais vraiment à tourner ce film à Cayenne pour mettre aussi en valeur le patrimoine architectural de la ville, quoi.
Nos deux enquêteurs sont joués par Philippe Carrois et Nadège Bossondiane et Anne Caillon qui joue le rôle de Marguerite. Anne, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur Marguerite?
C'est l'épouse de la victime.
Elle va pleurer encore?
Évidemment. Enfin, c'est ce que je fais de mieux, je crois. Non, après, c'était intéressant parce que, déjà pour moi, c'est quand même des gens qui vivent là-bas. C'était quoi de vivre en Guyane? Et aussi, il y a d'autres propos dans le film, en effet, c'est qu'on a essayé, en effet, de rendre ce qui était la réalité de la Guyane aujourd'hui. Donc, il y a quelques propos qui sont prêtés quand même à mon personnage sur le chômage, des choses comme ça. C'était pas inintéressant aussi d'apprendre sur comment ça se passait là-bas. Et puis, le personnage, voilà, elle est soupçonnée quand même à un moment. Donc, voilà. Ça, je ne peux pas vous dire, mais
c'était coupable ou pas.
Voilà. Non, mais ça, c'était intéressant à jouer, cette dualité aussi, le doute qu'on pouvait avoir sur elle, et voilà. Et puis, elle boite, alors voilà, elle a une histoire, quoi. C'est encore tout à fait, on est loin de Flore, là, mais voilà, c'est pas les mêmes larmes.
Bien, justement.
Oui, c'est ça qui est super, c'était vraiment super. Et puis, moi, c'était la découverte, encore une fois, de cette terre, parce que je suis allée aussi avec ma fille, et ça, c'était épatant de voir avec le regard d'un enfant, de découvrir une région. Et c'est une région, en effet, France a dit tout à l'heure quelque chose de merveilleux qui était, la nature vous happe. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est que ma fille voulait vivre, elle voulait passer ses journées entières dans la forêt avec les singes et c'était merveilleux à voir. C'était un enchantement, vraiment.
T'as hâte d'y retourner?
Franchement oui. Alors elle me tanne tous les jours. Il faut convaincre le père qui n'aime pas beaucoup les insectes et qui n'aime pas la chaleur parce qu'il est au Savoyard. Mais oui, enfin en tout cas, voilà, si c'est pas en Guyane, en tout cas dans ces régions-là, oui, là, prévois peut-être d'aller au Costa Rica, mais en tout cas, oui, j'aimerais bien y emmener des amis, ça c'est certain.
T'as eu des appréhensions, justement, avant ce tournage, avant de partir en Guyane, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es fait piquer contre la fièvre jaune, tu t'es fait...
Déjà, il y a une batterie de vaccins quand même à faire, hein. Bah non, moi j'ai tout... Ah, j'avais pas fait mes vaccins depuis très longtemps, hein, alors que j'ai refait tous les DT polio déjà. Non, ma fille, elle en a eu 3, je crois. Hein. Enfin, il y a la fièvre jaune, après, je sais plus ce que c'est. Mais c'est les insectes. C'est-à-dire que, me dit, tu vas en Amazonie, en fait, c'est vraiment ça. Hein, c'est que le fleuve n'est pas loin, n'est-ce pas? Et si, j'étais terrifiée, en vérité. D'ailleurs, j'ai posé question à plein d'amis qui avaient tourné sur la série Guyane, justement sur Canal. Et la plupart, en fait, m'ont totalement détendu là-dessus en disant que c'était aussi... Quand tu vivais avec ça, au bout d'un moment, tu regardais différemment la nature et la beauté. Et justement, notre accessoiriste était fondu des araignées, je sais pas si tu te souviens, Marc. Et donc, il en parlait avec une telle passion que du coup, on regardait pas de la même façon. Et que tous, ils vivent avec leur matoutou dans la maison parce qu'ils bouffent les moustiques. Et ben, c'est comme des petits chiens, en fait. Il y a des poils, finalement, sur ces bestiaux. Donc, j'ai un regard, ça m'a détendu sur mes phobies. Vraiment.
Alors, c'est Annie Copé aussi qu'on retrouve au casting, qui avait joué ce très beau rôle de Raymond Maufray dans La Vie Pure, le film de Jérémy Banster. Lui aussi, lui, Karim Nebati, un très beau casting, hein, mine de rien.
Oui, c'est Annie, j'étais très content. C'est Annie qui va jouer un Amérindien dans le film, donc c'était intéressant pour lui. Il n'avait jamais joué un Amérindien, donc je crois qu'il est très crédible. Il joue très très bien ce jeune homme, et puis en plus il est plastiquement... C'est un beau gars, donc voilà, quoi. C'était un bonheur de tourner avec lui. Et puis lui, Karim aussi, qu'on revoyait, à partir du moment où je lui ai dit Michael Jackson sort de ce corps, c'était super, quoi. Donc, il est très très bien dans le film, dans ce qu'on montre, il est très crédible, et voilà, je suis content de le revoir par ce biais, et voilà, pour ce rôle-là, quoi.
En plus, t'es partageuse, Anne. C'est-à-dire que quand tu pars comme ça sur un autre rôle dans un autre film, t'emmènes les copines. Et t'as emmené Rani Bimok avec toi qui joue le rôle de Lou dans Demain nous appartient, vous êtes retrouvées toutes les deux là-bas.
Oui, alors c'est pas moi qui l'ai emmené, hein, c'est gentil de dire ça. Je vais pas me vanter. Non,
t'as vu, j'ai voulu un peu.
C'est sympathique. Non, c'était rigolo parce qu'en plus on s'en était pas parlé ni l'une ni l'autre, et c'est France quand elle nous a dit le casting. Donc je me commençais à y Rani, on s'envoyait des messages. On avait un peu les mêmes appréhensions toutes les deux, et donc c'était très amusant de se voir là-bas. Et en fait, comme je ne tourne jamais avec elle à 7, je l'ai beaucoup plus rencontrée là-bas finalement que là on faisait que se croiser, hein, dans le sud. On est nombreux aussi sur Demain nous appartient. Donc là, on a fait des déjeuners ensemble, on a découvert les endroits là-bas ensemble, on est allé à Cayenne ensemble au marché amérindien. C'était génial. C'est ce que c'est, on se rencontre vraiment. C'est tout à fait hors contexte et c'était formidable de la retrouver. En plus, je la trouve très très bien dans le film aussi. Je la trouve vraiment bien.
Bon, ce meurtre à Cayenne, on ne le rate pas, hein, bien sûr, c'est cette semaine sur France 3. On va reparler un tout petit peu de Flore aussi, Anne. On l'a vu beaucoup ces derniers mois. Ça va se poser un petit peu. Est-ce que tu vas pouvoir prendre un peu de repos après ces tournages intensifs?
Ouais, je profite un petit peu de ma fille là.
Tu vas arrêter de manger des oignons pour te faire pleurer aussi. Hein.
Mais j'ai pas besoin d'oignons, jeune homme, enfin. Je pense à ce que je vis, voyons.
C'est ça le talent d'une vraie actrice.
En tout cas, j'ai mes yeux qui vont dégonfler, ça c'est sûr. Ça va faire beaucoup de bien.
Bon, merci à tous les deux. En tout cas, on va écouter un petit extrait et puis je vous dis, eh bien, à très très vite. Merci beaucoup, Marc. Merci, Anne. À très vite.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Capitaine Molba, mardi 5 mars. Il est 7h30 du matin. La victime est un homme de type caucasien âgé d'une cinquantaine d'années. Gorge tranchée, au vu de la coagulation, la mort remonte à plusieurs heures.
Elle est tout loulou de m'en laisser aucun répit.
Tu sais danser, toi?
Bah, évidemment. Quand tu veux.
Non, merci.
Lui aussi, il a une nuit mouvementée.
Regarde. Je trouvais ça dans sa main, t'en penses quoi?
Tout loulou diablesse.
Il devait être dans une soirée parée masquée.
Comme beaucoup de mordus.
Bon. Les touristes ont piétiné la scène de crime, on n'aura pas grand-chose.
J'espère trouver des traces de cheval trois pattes.
Allez, coup de cœur télé, bien consacré au grand retour de la série ainsi Grand Soleil. Hein, les fans l'attendaient avec impatience. Ça y est, votre série quotidienne revient ce soir à 20h40 sur France 2 pour notre plus grand bonheur. Et on avait laissé donc les intrigues autour du personnage de Maurias, toujours plus machiavélique que jamais, incarné par Jean-François Mallet, qui est aujourd'hui justement pour fêter avec nous ce retour notre invité. Bonjour mon cher Jean-François.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, je suis très content de t'avoir et puis surtout, en plus de te retrouver dans un rôle aux antipodes de ce qu'on a pu connaître avec le rôle de Jean-François dans une autre série quotidienne, là on se retrouve vraiment avec un personnage qu'on adore détester.
Oui, c'est vrai que c'est à l'opposé, je dirais même, hein, de ce qu'on avait l'habitude de faire, mais c'est très très agréable à jouer et c'est vrai qu'on aime bien le détester, ce personnage, ouais. Il est à la fois machiavélique et sournois, on va dire.
Exactement. Alors évidemment, il fait chanter, hein, il fait chanter les filles, hein. Notre duo de voleuses du dimanche, hein, on peut les appeler comme ça, hein, Mélanie Maudran et sa comparse qui joue le rôle de Myriam. Je crois qu'on peut les appeler des voleuses du dimanche qui se sont fait bien avoir, mine de rien. Et puis bah maintenant, il en profite évidemment, hein, ce méchant Mourias.
Oui, il en profite. Alors c'est un petit peu terrible ce qui arrive à ce petit Myriam, quoi. Je veux dire vraiment, elle est tombée dans les griffes du loup. Mais bon, il y a une sortie intéressante qui va plaire, hein, je crois. La fin va être sympa à voir, pleine de rebondissements, pleine de choses pas attendues, et ça va vraiment plaire. Je pense que ça va être un beau dénouement, bien sympa comme il faut, quoi.
Bah, tu peux pas en dire plus. Et oui, évidemment. Non. Alors, moi qui te connais bien, Jean-François, je sais que t'es un grand gentil. Mmh. Est-ce qu'il y a des scènes que t'as eu du mal, franchement? Parce que il y a des scènes quand même, c'est bien hard. T'as des sorties quand même bien hardcore, hein, quand même, hein.
Ah ouais, non, pas du tout. Non, mais je crois que on est tous un petit peu à la fois blanc et noir, hein, je veux dire, il suffit d'aller chercher au fond de soi, on a tous ce petit côté un peu méchant, ça dépend de ce que nous donne la vie, puis de ce qu'on va chercher. Mais non, j'ai pas eu de mal, je trouve même que c'est plus facile à jouer d'ailleurs.
Ouais.
Je trouve même que c'est plus... Ouais, vraiment. Quand on est un salaud, ben on est un salaud, et puis comme tout le monde a plus ou moins croisé un salaud dans sa vie, eh ben c'est assez facile à reconnaître, quoi, je veux dire, c'est même plus facile à jouer, je trouve, d'ailleurs.
Heureux de te retrouver dans un si grand soleil, justement, parce qu'on a vu ton personnage pendant quelques semaines au début, hein, de la série, quasiment, et là, ben, c'est vraiment une grosse intrigue autour. Est-ce que t'as été heureux de pouvoir retrouver ce personnage de Mourias? Parce que je sais que les fans t'attendaient depuis longtemps, depuis que tu avais quitté l'autre série. On avait hâte de te revoir, évidemment.
Ben, je dirais que oui, je suis content à la fois de retrouver les équipes de tournage, parce que c'est vraiment, vraiment sympa il y a beaucoup de gens que je connaissais sur le plateau. Et puis, c'est une très belle série. C'est-à-dire que ce qui est intéressant d'intégrer une équipe comme celle-là, c'est qu'il y a vraiment une volonté de la part de la production de faire quelque chose de très qualitativement très beau, avec vraiment beaucoup d'attention mise à l'image. On a beaucoup plus de temps. Et ouais, c'était agréable de retrouver des gens et c'était agréable de tourner dans ces conditions-là avec une intrigue comme celle-là. Enfin, vraiment, c'était un vrai bonheur. Ah
bah, visuellement, on est d'accord, hein, Jean-François. Un si grand soleil, c'est une série de prime time, hein, au niveau visuel.
Ah oui. Voilà. Ouais, vraiment, ouais, c'est très beau. Ouais. Et puis, vous avez vu, vois, les décors, quoi. Mourias, il y a une maison absolument magnifique. Voilà, c'est une série très classe. Ouais, vraiment.
Eh bien, nous, en tout cas, on a hâte de vous retrouver tous ce soir à 20h40 pour le grand retour d'Un si grand soleil, l'événement à ne pas rater sur France 2. Jean-François, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous dans notre émission pour en parler. Et puis, on te dit à très vite.
Et à ce soir.
Et à ce soir. Et tu sais, t'es le bienvenu, hein, dans notre émission quand tu veux. À très bientôt. Merci à toi.
Je vous embrasse.
Votre feuilleton quotidien fait son grand retour dès lundi soir.
T'inquiète pas, je sais que t'es marié. Cela dit, si t'as envie qu'on se revoie, je suis pas contre.
T'es sûr que t'as rien d'autre à me dire? Avant qu'on se retrouve ce soir tous les quatre au resto.
Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
La vérité, par exemple.
Bon, tu me rejoins quand, alors?
Je vais pas pouvoir venir, Alain.
Des meurtres, des affaires difficiles, il y en a tout le temps. Ça n'a jamais empêché les juges de prendre des vacances, quand même.
Ne tranche, je m'attendais pas à ce que tu me rappelles.
Un si grand soleil, votre feuilleton quotidien revient dès lundi soir à 20h40 sur France 2. Et en attendant, vous pouvez voir et revoir les épisodes précédents sur la plateforme France.tv.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, on va continuer à vous concocter évidemment de nombreuses surprises dans Chute, on écoute la télé pour lundi prochain, notamment Benjamin Baroche qui joue le rôle du chef Tessier. Dans Ici tout commence sera notre invité et bien d'autres surprises encore vous attendent bien évidemment.
Radio Vallée-Vézère,
104.4 sur le Terrassonnais, 98.5 sur le Sarladais, la radio de l'homme au pays de l'homme.
Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec la quotidienne à 7h45, 12h45 et 18h45 sur Radio Vallée-Vézère. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram. Chute, on écoute la télé, téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée ce soir à partir de 19h. Et je vous retrouve donc également lundi prochain à 11h et à 19h pour la grande hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Radio Vallée-Vézère.
Chute, on écoute la télé avec votre magasin But Cosy de Sarlat. Ameublement, literie, électroménager, décoration et pour tout projet de cuisine, l'équipe de projet et conception vous attend avenue de la Dordogne à Sarlat.
Chut, on écoute la télé avec Real Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Sarlat, 3 rue de la Liberté et sur real-chocolat.com. Real Chocolat fait naître la gourmandise.